VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
République démocratique du Congo, les candidats à la présidentielle Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe discutent d'un éventuel ticket commun.
L'ONU déplore une aggravation de la violence dans les régions anglophones du Cameroun.
Centrafrique, le député et ex-chef de milice Alfred Yekatom, dit Rambo, comparé aujourd'hui devant la Cour pénale internationale.
Meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le président Donald Trump réaffirme l'alliance stratégique avec Riyad.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Élection du 23 décembre en RDC, va-t-on vers un ticket commun entre l'UDPS Tshisekedi et l'Union pour la Nation Congolaise? Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les leaders de ces deux partis, qui se sont retirés de l'accord de Genève au lendemain de la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, discutent de la question à Bruxelles. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
S'unir et mettre leurs forces au sein d'une plateforme commune afin d'affronter ensemble à travers un ticket gagnant les élections du 23 décembre 2018, c'est l'objectif que se sont fixés Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe dès le lendemain de leur retrait de l'accord de Genève et de la coalition Lamuka. Ils poursuivent à Bruxelles des discussions et semblent très proches d'un accord selon leur entourage. Les discussions vont bon train. Dans les toutes prochaines heures, nous allons en rendre public les résultats, a dit à VOA Afrique Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Un proche de Vital Kamerhe a même publié sur les réseaux sociaux un communiqué annonçant un accord. Mais à l'UDPS, on reste prudent. Il ne s'agit que de l'ébauche d'un accord qui doit être porté à la signature des leaders de l'UDPS et de l'UNC. A poursuivi Jean-Marc Kabunda Kabund avant de conclure. À l'étape actuelle des discussions entre nos deux partis, chacun est astreint au principe de réserve. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont quitté la coalition Lamuka, sont appelés à vite se prononcer car la campagne électorale démarre ce jeudi 22 novembre 2018. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
A signaler aussi que l'opposition congolaise a été autorisée à manifester ce mercredi à Kinshasa pour accueillir Martin Fayoulou qui doit revenir d'Europe par un vol régulier à la mi-journée par l'aéroport de Ndjili. Également, l'Église catholique congolaise a appelé lundi les autorités à garantir et à faire valoir la liberté de manifester à tous les candidats en RDC où les manifestations de l'opposition sont majoritairement interdites ou dispersées par les forces de l'ordre.
L'ONU estime qu'il y a une aggravation de la violence dans les régions anglophones du Cameroun. 8 élèves et 13 religieuses ont récemment été enlevés puis libérés contre rançon, a indiqué le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, l'agence onusienne se dit profondément préoccupée par l'aggravation de la violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Au cours des deux dernières semaines, 8 élèves et un professeur d'école ont été enlevés dans le sud-ouest ainsi que 13 religieuses. Ils ont tous été libérés par la suite après le paiement de rançon par les parents et l'intervention du diocèse catholique, indique l'ONU. Le communiqué note en outre que les forces de sécurité auraient procédé à un certain nombre d'exécutions extrajudiciaires avec 4 villageois qui auraient été tués par l'armée lors d'un affrontement avec les groupes sécessionnistes le 20 octobre dernier. L'ONU a appelé les séparatistes à s'abstenir de recourir à la violence et l'armée à répondre aux doléances des communautés de ces régions par le dialogue. Dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, une crise sociopolitique sans précédent s'est installée fin 2016. Elle s'est transformée fin 2017 en conflit armé.
Le député et ex-chef de milice centrafricain Alfred Yekatom, dit Rambo, comparaîtra vendredi pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Il avait été remis samedi dernier à la CPI pour sa responsabilité présumée dans des atrocités commises en Centrafrique depuis 2012. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La première comparution d'Alfred Yekatom devant la chambre préliminaire 2 de la CPI aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à 11h, a indiqué la Cour dans un communiqué. Au cours de l'audience, la chambre vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Alfred Yekatom sera informé des charges portées à son encontre. C'est le premier transfèrement vers la CPI depuis l'ouverture de l'enquête sur la Centrafrique en septembre 2014 sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis à partir de 2012. Selon le procureur de la Cour, Fatou Bensouda, il renforce la cause de la justice en Centrafrique, pays ravagé par des violences meurtrières depuis 2012. Depuis cette année et le début de l'offensive qui a abouti à la prise de Bangui par l'ex-coalition de la Séléka, la Centrafrique est le théâtre de violences qui ont forcé un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile. Une mission onusienne de maintien de la paix, la MINUSCA, est déployée depuis 2014 à la suite d'une intervention militaire française et tente de préserver les civils.
Nous reviendrons sur le cas Alfred Yekatom en seconde partie de cette édition.
Au Mali, une intervention de l'armée contre une milice de chasseurs traditionnels Dogon, dimanche dans le centre du pays, s'est soldée par plusieurs morts et blessés, ainsi que par des arrestations. C'est ce qu'a appris hier l'AFP de sources concordantes. Par ailleurs, 3 soldats ont été tués et 5 autres blessés mardi, quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif à la mi-journée, près de Boni, selon le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. D'autre part, assassinat hier du chef du village de Djabel, Dadi Boukari, à la foire de la localité de Bankas, a dit un élu local. Ce village à majorité peul avait subi dimanche une attaque d'hommes armés qui avait fait plusieurs blessés.
En Côte d'Ivoire, le quotidien d'État Fraternité Matin, premier journal du pays, va licencier près de la moitié de ses effectifs pour redresser ses comptes. C'est ce qui ressort d'une note transmise aux représentants du personnel dont l'AFP a eu copie hier. 11 journalistes figurent parmi les licenciés selon la note, ce qui représente un quart de la rédaction d'après Théodore Sinze, journaliste au service politique, secrétaire général adjoint du syndicat des agents de Fraternité Matin, lui-même sur la liste des licenciés. Pour lui, ce plan ne va rien redresser du tout, c'est un règlement de compte. Les ventes du quotidien Fraternité Matin atteignent moins de 5000 exemplaires par jour, selon des chiffres du Conseil national de la presse.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le président américain Donald Trump préfère préserver une alliance qu'il juge stratégique, tout en estimant que le prince héritier saoudien était peut-être bien au courant de son assassinat. M. Trump indique que cela ne remettra pas en cause la relation entre Washington et Riyad. Eric Manirakiza.
Les États-Unis entendent rester un partenaire inébranlable de l'Arabie saoudite. Le président américain a énuméré différentes raisons qui consolident cette alliance stratégique à ses yeux. Lutte contre l'Iran, ennemi commun, combat contre le terrorisme islamique radical, achat d'armes américaines ou encore stabilité des prix du pétrole, dont Riyad est le premier exportateur mondial. Nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les faits entourant le meurtre de Jamal Khashoggi, un crime épouvantable que notre pays ne pardonne pas, a ajouté le président, soulignant dans le même temps une nouvelle fois les dénégations du prince héritier et de son père, le roi Salman. La CIA n'a pas abouti à une conclusion définitive, a-t-il précisé. En revanche, plusieurs médias américains affirmaient que la CIA n'a plus de doute sur la responsabilité du prince héritier Mohamed Ben Salman. Washington a imposé la semaine dernière des sanctions financières contre 17 exécutants déjà connus. Le Congrès américain pourrait engager des procédures pour prendre des sanctions plus sévères ou stopper les ventes d'armes à Riyad. Et les appels au Congrès se sont multipliés dès la déclaration du président Trump.
Un juge fédéral a ordonné à l'administration Trump de libérer quelques 100 immigrants irakiens en détention depuis plus de 6 mois en vue de leur expulsion. En annonçant sa décision, le juge Mark Goldsmith a accusé le gouvernement d'avoir fait de fausses déclarations et il a fustigé l'attitude de l'administration, la qualifiant d'ignoble. Il lui a donné 30 jours pour libérer les Irakiens ou lui fournir des raisons suffisantes pour leur détention continue. Le juge a promis aussi des sanctions dans une décision séparée. Pas de réaction pour le moment du département. département de la justice.
États-Unis toujours, selon le New York Times, le président Trump voulait que le ministère américain de la justice ouvre une enquête contre sa rivale à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, et contre l'ancien chef du FBI, James Comey. Le président avait déclaré ses intentions à Don McGahn, conseiller juridique de la Maison-Blanche, selon deux personnes informées de cet échange cité par le quotidien. M. McGahn, qui a quitté depuis la Maison-Blanche, avait conseillé au président Trump d'abandonner cette idée de par peur qu'il ne soit accusé d'abus de pouvoir. Il avait également ordonné à son équipe de rédiger un mémo pour faire la liste des conséquences possibles si Donald Trump donnait cet ordre. Celle-ci mentionnait le risque de destitution, écrit encore le New York Times. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Éthiopie, le groupe industriel indien Trident Group Limited veut investir entre 100 et 200 millions de dollars pour une usine de production de papier copieur et à lettres respectueux de l'environnement. La société gérera les ressources non utilisées et les récoltes pluviales afin de passer à la fabrication écologique pour un environnement propre. Ce papier permet d'économiser plus de 1,5 million d'arbres par an utilisés pour la fabrication du papier. Au Zimbabwe, la firme exploratoire australienne Invictus Energy déclare que son prospect de Nzarabani, dans le nord du pays, possède au moins 3,9 milliards de pieds cubes de gaz. 181,11 millions de barils de condensat ont été déclarés récupérables sur le périmètre. Par ailleurs, Invictus indique vouloir forer un puits d'exploration sur la zone à la mi-2020, investissant 20 millions de dollars dans le processus. En Afrique du Sud, les expéditions d'agrumes s'achèvent vers un record cette année. Selon l'Association sud-africaine des producteurs d'agrumes, le volume de fruits exportés a déjà atteint 135 millions de cartons. Ce stock représente une hausse de 3,5 millions de cartons par rapport aux prévisions datant de mars dernier et marque une hausse de 10% par rapport à 2017.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun a donné une raclée à l'Algérie à la CAN féminine.
Oui, après leur victoire poussive face au Mali 2-1, les Lions n'ont pas fait de détails en disposant de l'Algérie 3-0 hier dans le groupe A. Des buts de Gabriel Ouguéné, Gaël Anganamouït et Adjara Nouchouk ont permis aux Camerounaises d'enchaîner une deuxième victoire de rang. L'Algérie n'est pas encore mathématiquement éliminée, mais n'a pas non plus son destin en main.
Le Mali s'est repris face au Ghana.
Et oui, le Mali a conserver ses chances de qualification en faisant tomber le pays hôte 2-1 lors de cette deuxième journée du groupe A. Un doublé de Bassirou Touré a porté les Aiglons tandis que les Black Queens n'y auront cru que 4 minutes le temps entre l'égalisation d'Elisabeth Ado à la 71e sur pénalty et le second but malien. Le Mali jouera donc sa qualification vendredi contre l'Algérie.
La RDC jouera le tour suivant des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, accroché 0-0 à l'aller, la République démocratique du Congo a étrié le Rwanda 5-0 à Kinshasa à l'occasion du premier tour retour. Les Léopards affronteront le Maroc au prochain tour en mars 2019. Dans les autres matchs, le Niger a sorti le Burkina Faso battu 3-1 à Niamey après le 1-1 à l'aller à Ouaga. Le MENA tentera de réaliser un nouvel exploit au prochain tour contre la Côte d'Ivoire. La Guinée a déroulé de son côté après sa victoire 2-1 en Mauritanie à l'aller. Le Sili, des moins de 23 ans, a remis ça en corrigeant les Mourabitounes 4-1 au match retour à Conakry. La Guinée défiera donc le Sénégal au prochain tour. Pas de souci également pour le Cameroun. Les Lionceaux coachés par Rigobert Song se sont contentés des matchs nuls 1-1 au retour au Tchad après leur victoire 3-0 à l'aller.
Il y a eu aussi des matchs amicaux.
Oui, Drissa, la Tunisie et le Maroc étaient aux prises au stade du 7 novembre. Score final 1-0 pour les Lions de l'Atlas. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Youssef Ennesri. Le Cameroun s'est incliné à Londres devant le Brésil 1-0 avec un but de Richarlison. La mauvaise nouvelle pour le Brésil, c'est la blessure de Neymar, la superstar brésilienne est sortie sur blessure après seulement 8 minutes de jeu à 8 jours du choc PSG-Liverpool en Ligue des Champions. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Toronto et Orlando 93-91, Washington et LA Clippers 125-118, Brooklyn et Miami 104-92, Portland et New York, 118 à 114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est ce vendredi donc que l'ex-chef de milice centrafricain Alfred Yekatom, dit Rambo, va comparaître devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre des anti-Balaka a été remis ce vendredi à la CPI pour sa responsabilité présumée dans des atrocités commises en Centrafrique. Bagassi Koura a joint à Bangui Eric Tambo, le procureur général de la République, qui revient ce matin sur les raisons de ce transfert.
Nous avons transféré ce chef de guerre à la CPI parce que la CPI a commencé à enquêter sur ce chef de guerre pendant la crise qui a secoué le pays, alors que les institutions judiciaires n'étaient pas encore en mesure de reprendre les activités. Et puisque la CPI avait commencé à mener des enquêtes, et à un moment donné, il était devenu député et il bénéficiait de l'immunité parlementaire. Donc, du coup, les juridictions nationales ne peuvent pas l'arrêter. Mais devant la CPI, les parlementaires, que ce soit les ministres ou bien les généraux, leur immunité tombe devant la CPI.
Quels sont les crimes qui sont reprochés au député de Mbaïki, Alfred Yekatom?
Ce sont des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et comme la CPI a suffisamment enquêté sur ces exactions, ces atrocités, pendant la période de la crise de l'année 2013 à 2014, et que la CPI, pendant cette période, en même temps qu'il était à l'Assemblée, était en train d'enquêter, comme il était arrêté, nous avons jugé utile de lui remettre à la CPI dans le cadre de la complémentarité. Mais en tout cas, c'est dans le cadre de la lutte acharnée contre l'impunité.
La lutte acharnée contre l'impunité, et beaucoup de Centrafricains se demandent pourquoi Rambo seul, alors qu'il y a d'autres chefs de guerre qui ont aussi commis des atrocités.
Mais chacun a son tour sur le coiffeur. Beaucoup de ces chefs de guerre, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées contre eux. Et puisque l'enquête est toujours secrète, on ne peut pas dévoiler ces enquêtes-là. Mais dès que le moment viendra, ils seront capturés et ils seront jugés soit par les juridictions nationales, soit par la Cour pénale spéciale qui est en train d'être opérationnelle, soit par la CPI. Donc, il s'agit non pas d'une discrimination, mais chacun a son tour sur le coiffeur.
En fait, le début d'une étape, quoi.
Oui, bon, en tout cas, nous avons commencé depuis début 2018, nous avons commencé à juger certains chefs de guerre, tels que Angelo et tels que les éléments de Abdel Hissène, qui ont écopé des peines à perpétuité. Donc, c'est une lutte acharnée contre les chefs de guerre, puisqu'il y a trois juridictions, les juridictions criminelles nationales, les juridictions de la Cour pénale internationale et la Cour pénale spéciale qui est en train d'être opérationnalisée. L'enquête suit son cours contre les autres. Et donc, puisque l'enquête est secrète, on ne peut pas dévoiler leur nom. Mais dès que la situation se présente, on va procéder à leur interpellation. Et soit nous pouvons les juger, ou la CPS, ou la Cour pénale internationale.
C'était Eric Tambo, procureur général de la République centrafricaine.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Mali, comment établir la confiance entre les jeunes d'une part et les forces de sécurité et le système judiciaire de l'autre? C'est l'objectif d'une récente rencontre à Mopti, c'était l'objectif de cette rencontre à Mopti, où la justice, la police et la gendarmerie se sont prêtés aux questions des jeunes sur le fonctionnement de ces structures. Le point avec notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Les jeunes se méfient des acteurs de la chaîne pénale, notamment la justice, la police et la gendarmerie, ce qui risque de compromettre certains droits humains. Ce face-à-face vise donc à dissiper cette méfiance entre ces différentes parties. Negetine Diarra est le directeur exécutif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains.
Nous avons constaté que les jeunes qui sont les plus nombreux, les plus dynamiques, les plus mobiles, se méfient beaucoup plus au service de la chaîne pénale. Et donc c'est pour faire en sorte que ces jeunes jeunes puissent connaître ces services et afin qu'ils puissent collaborer avec les acteurs de la chaîne pénale, qui puissent s'intéresser à ce que ces services font et puissent aussi exposer leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs difficultés, les difficultés que ces jeunes rencontrent dans la recherche de leurs droits au quotidien.
Cette recherche de droits passe par la connaissance du système, d'où l'importance d'une telle rencontre. Fatoumata Sanogo est un leader de la jeunesse de Mopti.
L'importance d'une telle rencontre, c'est vraiment capitale dans la vie de la jeunesse parce que ça permet de démystifier la chaîne pénale et puis les différentes procédures pour pouvoir saisir la justice. Et ça permet également de rapprocher le justiciable des justiciers puisque ça permet d'établir une communication. Et si la communication est fluide, ça permet facilement aux uns et aux autres de se comprendre et d'éviter des situations d'incompréhension.
Pour le secrétaire général du Conseil régional des jeunes, il est plus que nécessaire d'établir un dialogue entre ces différentes structures. Abdoulaye Aboubakrine Diko.
C'est une rencontre indispensable en fait. Vous ne pouvez pas créer une confiance entre les gens, vous ne pouvez pas amener la cohésion sociale entre les personnes, vous ne pouvez pas amener les gens à travailler ensemble. Tant que vous n'échangez pas avec les personnes-là, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce qu'ils travaillent. Donc c'est déjà des rencontres, s'ils n'existent pas, il faut les créer.
Cette démarche est saluée et appréciée par les autorités régionales. Lassana Sekou Camara, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur.
Le gouvernorat de la région de Mopti les accompagne dans la tenue de cet atelier et les soutient. Notre constitution dit que la personne humaine est sacrée. C'est une manière pour moi de résoudre cette équation, protéger les droits et devoirs des personnes, mais aussi assurer notre protection et notre sécurité.
Les différentes parties veulent l'institution d'un cadre d'échange pour une meilleure collaboration. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Comment faciliter le développement de l'entrepreneuriat en Afrique? La question était au centre d'une rencontre à Ouagadougou à l'occasion de la publication du rapport 2018 sur les pays les moins avancés de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
Sous-titré « Changer de cap », ce rapport examine les conditions nécessaires à la création et au développement des entreprises à fort impact dans les pays les moins avancés. Groupe de 47 pays qui comprend la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, certains pays asiatiques et plusieurs États insulaires. Le Burkina Faso doit actionner des leviers pour le développement de l'entrepreneuriat, surtout par choix. Bineswari Haruna Bolaki, économiste à la division de l'Afrique de la CEDUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, basée à Genève.
Le Burkina Faso est déjà doté d'une stratégie nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et aussi pour développer l'entrepreneuriat agricole. Il faut surtout mettre en œuvre ces stratégies. Il faut y avoir une coordination et une cohérence entre les programmes de développement, des politiques industrielles et des programmes qui vont viser le développement de l'entrepreneuriat. Par choix.
Le Burkina Faso a entrepris des réformes en matière de l'entrepreneuriat. Et selon le ministre burkinabé de l'insertion professionnelle, Smaila Ouedraogo, les conditions sont réunies pour créer son entreprise.
Au niveau du Burkina Faso, actuellement, avec 5 000 francs, on crée son entreprise. Et le délai d'attente pour pouvoir avoir ces différents documents pour pouvoir exercer son activité en tant qu'entrepreneur est également raccourci. Il y a également certaines mesures incitatives que le gouvernement tente de mettre en œuvre. Cette année même, donc, la subvention de l'État en matière d'appui à la formation continue et à la formation initiale qui était de 300 millions est passé à 2 milliards.
Dans les pays les moins avancés, c'est difficile d'entreprendre car les jeunes ne sont pas accompagnés et l'État lui seul ne peut pas tout faire. Mamadi Rwamba est promoteur de Biogo Lab, un centre d'appui aux initiatives entrepreneuriales.
Pour quelqu'un qui vient de quitter peut-être l'université, il n'a pas en fait les possibilités de se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas en fait seulement au niveau étatique que les efforts en fait doivent être fournis. Il y a certaines initiatives, donc en ce qui nous concerne, nous sommes un centre d'entrepreneuriat, nous accompagnons en fait des initiatives entrepreneuriales sans que cela ne soit en fait à l'échelle macro.
Selon le rapport, au moins 20 des 47 pays les moins avancés disposent de politiques industrielles nationales, mais ces pays accordent bien moins d'attention aux facteurs clés de l'entrepreneuriat. Le rapport préconise un État qui effectue des investissements transformateurs et qui fasse contribuer le secteur privé à la mise en œuvre d'une vision stratégique définissant clairement une trajectoire de développement. Lamine Traoré, Ouagadougou. VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Un conflit chronique de 30 ans au moins en Somalie a laissé environ une personne sur trois touchée par des problèmes de santé mentale tels que le trouble de stress post-traumatique TSPT. Cependant, il n'y a que trois psychiatres agréés dans tout le pays. Reportage de Mohamed Cherno, repris ici par Arzuma Compaoré.
Ayane Adam, 20 ans, et sa mère ont fui la Somalie pour le Kenya après l'attaque du groupe terroriste Al-Shabaab en 2010 dans leur quartier de Mogadiscio. Mais leur demande d'asile a été rejetée. Ayane Adam, patiente souffrant de TSPT.
Nous avons fui les bandes armées, les explosions à Mogadiscio et avons rejoint le camp de réfugiés d'Agadir. Mais lorsque nos espoirs ont été déçus, nous avons dû retourner chez nous.
Après une dépression, Ayane a aménagé dans ce centre pour traiter son trouble de stress post-traumatique. Halima Roble, mère d'Ayane.
Alors que je la recherchais partout, on m'a informé que ma fille avait été retrouvée par une agence humanitaire de la région. Je m'y suis précipitée et j'ai vu qu'elle avait d'horribles bleus sur son corps et qu'elle criait.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un tiers des Somaliens sont touchés par des problèmes de santé mentale, tels que le trouble de stress post-traumatique. Mais Ayane est l'une des rares personnes à bénéficier d'un traitement approprié. Docteur Abdourahmane Ali Awale, psychiatre.
Les causes du syndrome de stress post-traumatique dans ce pays incluent une peur constante due à l'hostilité des populations environnantes, aux explosions, aux déplacements, au chômage et à la pauvreté, qui est en fait l'une des principales causes du stress.
L'attention accordée par la Somalie à la sécurité fait qu'il existe peu de ressources pour traiter les problèmes de santé mentale. La dépendance à des drogues, comme le stimulant narcotique contenu dans la feuille de rat, ne fait qu'aggraver le problème. Les patients souffrent d'un manque de médicaments, d'infrastructures médicales et de médecins. Docteur Abdul Rizak Youssouf, directeur du service médical au ministère de la Santé.
Bien que le TSPT a été inclus dans le plan stratégique national de la Somalie, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données de base officielles. Cela a retardé l'intervention nécessaire de l'État contre le TSPT. En matière de traitement, de prévention contre le cancer psychosocial, tous ces obstacles nous empêchent de lutter efficacement contre le TSPT.
Pendant ce temps, des Somaliens comme Ayane font de leur mieux pour surmonter le traumatisme de la violence en espérant pouvoir un jour vivre une vie normale.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur le consommer local. Tous les 20 novembre, les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique à travers la promotion de produits locaux. En dépit du patriotisme économique, le consommer local fait face au défi de la qualité des produits et au complexe du produit étranger. Quels sont les produits que votre pays peut valoriser ? Êtes-vous prêt à les acheter un peu plus cher pour soutenir l'économie nationale ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
And stacking it all up. Can't wait for the sun to go down. Roll into town. Shine the old truck up. Swing by the quick stop. Grab a couple rocky tops. Then ease on out your way to your place around 8 o'clock. Well, I'm just ready to ride this Chevy down a little back road. Find your pretty little cell phone over. Get a little closer. Turn. Big toes on the dash, lean the seat back. Man, I swear there ain't nothing looks better than that. Sweet tan little thing with nothing to do. I wanna take a little ride with you.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.